Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonsoir à tous. On va ouvrir notre Bible et puis nous allons prendre un passage à méditer dans le livre des rois. Alors, je vais vous donner les références. Nous allons nous retrouver autour de ce propos. Dans le livre des rois, donc, au chapitre 19, et nous allons lire au verset 11, si vous voulez bien. Premier. Premier livre des rois. Chapitre 19, verset 11, jusqu'au verset 13. Alors écoutez bien, on va prendre ce texte. C'est Dieu qui s'adresse à Élie, le prophète, et il lui dit au verset 11, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici, l'Éternel passa. » Et devant Dieu, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, de la grotte, où dans sa frayeur, il s'était réfugié, parce qu'il y a, si vous connaissez tout le contexte, eh bien, Élie qui était un homme de grande foi, un homme courageux, a été saisi d'une peur qui était plutôt de la frayeur en raison de cette femme profondément mauvaise qui s'appelait Jézabel et qui voulait le tuer. Voilà, ça c'est un petit peu l'histoire. Vous avez remarqué avec moi, il y a quelque chose de répétitif dans ce récit. Et dans cette répétition en trois phases, c'est un petit peu, si vous me permettez cette originalité de la réflexion, eh bien l'histoire de l'humanité qui est devant nous, l'histoire des hommes, l'histoire du monde, en trois parties, trois phases. Il y a d'abord l'effondrement de la création de Dieu, représentée naturellement, et bien ultimement par sa créature humaine. Il y a également, dans une deuxième considération, c'est le rêve d'un monde meilleur, mais sans Dieu. Alors, est-ce que c'est possible? On va répondre à cette interrogation. Et puis, en troisième point, nous allons souligner le fait, c'est ce que nous pourrions appeler la vraie rédemption de l'humanité, le salut des hommes. Alors, on va commencer par le premier point, où il est question de l'effondrement de notre monde. Cela nous amène naturellement à prendre quelque chose en considération dans ce qui nous est expliqué dans le livre de la Genèse, mais nous y reviendrons tout à l'heure. L'effondrement se caractérise par un vent fort et violent qui déchire les montagnes et brise les rochers. C'est le texte que nous avons devant les yeux. Alors, c'est vrai que quelquefois, il peut survenir des grands vents sur la terre, mêlés avec toutes sortes d'événements, hein, tant sur notre planète que dans le ciel, sur la mer. Et vous avez remarqué avec moi, les mots ne sont pas anodins. Quand il est parlé de la violence et de la force capable de déchirer des montagnes et de briser des rochers. Je ne sais pas si ce vent-là a certainement dépassé force 10, hein, 9 ou 10. Parce qu'imaginez-vous, hein, lorsque nous sommes là, nous sommes sur le littoral, et dans les gros temps, quand la mer est déchaînée, ah, ça peut éventuellement effriter les falaises, hein, mais c'est encore de la terre meuble qui dégringole, mais jusqu'à véritablement, eh bien, bousculer les rochers, c'est autre chose. Bien que l'on peut s'apercevoir que si vous allez à certains endroits sur la côte, on voit le découpage. Vous avez vu? Hein, il y a parfois des trous béants dans certains rochers, on se dit. Voilà, alors il y a le vent, il y a la mer, il y a l'érosion, il y a toutes sortes de choses. Mais imaginez-vous un peu la force. Et Élie se trouve caché dans sa caverne parce qu'il a peur. Et voilà qu'à ce moment-là, eh bien, survient ce phénomène extraordinaire de la nature qu'est ce vent fort et violent. Ça, c'est, on va le voir d'ici quelques instants, eh bien, ce qui s'est produit dans l'histoire de notre monde, de l'humanité à sa naissance, au début de la carrière humaine, lorsque l'homme a été finalement, eh bien là, créé, à tel point que dans ce tohu-bohu, dans ce chambardement, dans toutes ces choses, eh bien, on voit finalement, eh bien, toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Le deuxième point que nous avons pris en compte, c'est le rêve d'un monde meilleur, mais un monde meilleur sans Dieu. Ça, c'est la deuxième phase de ce que nous pouvons constater. Et il nous est dit, ce fut ensuite un tremblement de terre, et après le tremblement de terre, le feu. Ça arrive dans les séismes et les ouragans, vous savez, la terre tremble, et puis elle détruit tout sur son passage, quelquefois provoquant des éruptions volcaniques, ou la mise à feu, eh bien, des maisons. Ça s'est constaté. Vous avez remarqué avec moi, après le vent, après le tremblement de terre et après le feu, il y a une observation qui est faite dans notre texte, c'est que 3 fois de suite, et c'est important, l'avez-vous remarqué, l'avez-vous souligné, il nous est dit, l'Éternel n'était pas dans le vent, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Voilà. Je ne sais pas ce que pouvait penser Élie à ce moment-là, dans l'obscurité de son refuge précipité, mais il pouvait se dire, tant mieux, je ne suis pas dehors. Ça, il pouvait se féliciter, et quelque part, il y avait la démonstration encore de la miséricorde et de la compassion de Dieu pour son serviteur qui finalement voulait mourir, parce qu'il était désespéré, il était au cœur d'une dépression, d'une angoisse terrible, et pourtant à ce moment-là, la main de Dieu était sur lui, pour le garder de la méchanceté de Jézabel, qui était à la fois un vent violent, un tremblement de terre et un feu pour le détruire. Enfin, ce sont des approches que nous pouvons donner dans la réflexion de notre texte. Et puis, après l'effondrement, après le rêve d'un monde meilleur sans Dieu, il y a ce que j'ai appelé, il y a un instant, la vraie rédemption, le salut des hommes. Et il nous est simplement dit d'une manière très lapidaire, après le feu, il y eut un murmure doux et léché. Je reviens au verset 11, quand il nous est dit que l'Éternel passa. Et quand Dieu passe, ce n'est jamais pour faire du mal, ce n'est jamais pour détruire, mais c'est pour sauver les hommes. Je tiens quand même à le dire. Bien qu'il ne soit pas dans les 3 phénomènes que nous avons décrits il y a un instant. Parce que quand Dieu passe, il regarde le monde, il observe les hommes, il voit tout ce qui se passe, et croyez bien que il n'y a rien qui échappe à son contrôle, même si les rochers se fondent, les montagnes s'écartent, quand bien même la terre s'entr'ouvrirait, et quand bien même le feu embraserait notre planète, Dieu passe. Et il passe et il voit, il regarde le monde. Quand on prend en considération la première phase, c'est-à-dire l'effondrement de l'humanité, nous nous apercevons que les choses nous sont dépeintes dans cette violence, dans ce feu inimaginable, dans ce vent inimaginable, pardon. Il nous est fait la démonstration dans le caractère même de la dissolution et de la corruption de cette humanité à ses débuts. Le livre de la Genèse, je le rappelle, où les hommes, à ce moment-là, et je vais vous donner des versets bibliques, après avoir été créés par Dieu, après avoir été mis dans un contexte tout à fait d'idéal de vie humaine, le jardin d'Éden, qui a été appelé aussi le paradis terrestre, l'homme, à ce moment-là, dans cet effondrement, on appelle la chute, retourne, je dis bien retourne, rien à voir avec la théorie de l'évolution de M. Darwin, mais il retourne à la brutalité, c'est un retour à la bestialité et à la sauvagerie auquel l'homme va tout à nouveau, eh bien, se livrer. Mais l'inspirateur n'est pas Dieu dans tout cela. C'est celui qui, d'une manière rusée, s'est introduit pour jeter le doute et jeter l'incrédulité dans le cœur d'Adam et Ève et leur faisant croire que le bonheur est préférable à aller le chercher auprès des puissances de ténèbres qu'auprès de ce Dieu créateur. Et là, tout s'effondre à ce moment-là. La confiance, l'amour, cette communion qu'il y a entre créateur et créature et dans l'autre sens, tout s'effondre. Et l'âme va devenir, eh bien, quasiment un animal avec ses instincts, avec tous ces mouvements qui sont, eh bien là, animés par toutes sortes de désirs, mais des désirs qui ne sont pas les meilleurs, qui sont mauvais. Et tout cela va se perpétuer pendant des millénaires à travers le sang et la guerre. D'ailleurs, tout de suite après le chapitre 3, il y a chapitre 4, c'est logique. Mais dans le chapitre 4, il nous est parlé de ce que je suis en train, la démonstration de ce que je suis en train de dire. Animalité, brutalité, sauvagerie. C'est là où Caïn va tuer son frère Abel. On s'aperçoit que dans ces premiers chapitres de la Genèse, il nous est dit à un moment donné d'une manière très lapidaire, il nous est dit que Dieu chassa l'homme. Il ne pouvait plus rester dans ces conditions. L'homme d'abord se cache. Il découvre qu'il est nu, qu'il est honteux, et quand bien même Dieu l'appelle, eh bien, il a peur. Il est rempli de crainte. Alors il est chassé. Ensuite, je vous l'ai cité tout à l'heure, dans le chapitre 4, c'est l'histoire du premier crime. Le premier sang qui est versé sur la terre, et qui aura tant de répercussions dans l'histoire des peuples et des nations, à travers les siècles qui vont venir, qui vont se dérouler, dont nous sommes encore tristement les spectateurs au jour où je vous parle, avec des champs de bataille effroyables, rassemblant des centaines, des milliers, voire des millions d'hommes s'affrontant les uns les autres. Et à un moment donné, je crois que c'est au chapitre 5, chapitre 6, il nous est dit que Dieu passe encore, et il regarde. Et il s'aperçoit que la méchanceté se généralise sur le monde d'alors. Le monde est en train de s'effondrer dans le sang et dans la guerre, dans le crime et dans toutes sortes de choses. Et à ce titre, il nous est dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes ces pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et c'est là où il a pris la décision de quelque chose de terrible, quelque chose d'effroyable que nous connaissons sous le nom du déluge. Les pensées de l'homme se tournaient uniquement vers le mal, amenant la mort, la souffrance, la destruction et la quasi-disparition des hommes à travers l'ordre que Moïse va avoir à construire une arche pour que malheureusement, les hommes appelés refuseront, mais il rassemblera les animaux pour sauver chacun selon son espèce. Vous vous rendez compte? 8 personnes de la famille de Noé vont passer à travers le déluge. Et là, le déluge, c'est le vent, c'est le tremblement de terre, c'est la pluie qui tombe pendant là des jours et des jours et des nuits, et qui va finalement eh bien nettoyer toute âme qui vive à ce moment-là, avec néanmoins une lueur d'espoir. Et je voudrais quand même vous citer ce texte parce qu'il est très beau. Quand Dieu a voulu recomposer avec les hommes, il a fait une alliance avec l'homme, avec Noé en particulier. Et nous avons ce texte que vous connaissez sous le nom de l'arc-en-ciel. C'est curieux. Et Dieu lui dira à ce titre, il lui dira, Dieu dit à Noé, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toi, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour des générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et Dieu dit, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et ça, c'est une lueur d'espoir, parce que viendra autrement qu'un arc-en-ciel dans les temps futurs. Ça sera une autre alliance. Ça sera pas la première. Ce sera pas l'avant-première, nous pourrions dire, parce que nous sommes encore à l'avant-première. La première, c'est cette alliance avec Israël. Et nous pourrions dire la deuxième, eh bien, ça sera véritablement celle qui a été traitée à travers Jésus dans le Nouveau Testament, à travers la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais allons encore un peu plus loin. Il nous est dit donc qu'il y a eu donc un vent fort violent. C'est l'effondrement, ça. Qui a fait exploser la création de Dieu. Une création qui était faite pour le bonheur de l'homme, pour son épanouissement, pour son salut même. Mais un salut qui n'a rien à voir avec celui que nous avons aujourd'hui, parce que le salut à cette époque, à ce moment, c'était un salut qui était exempt de mort, exempt de souffrance, exempt de tout ce qui, finalement, eh bien, ce que l'on peut nommer drame et chose épouvantable. Alors, nous apercevons qu'il y a également ce tremblement de terre et ce feu. On pourrait dire que l'homme a mis le feu au monde, le monde enflammé, le monde en flammes, parce que nous l'avions mis sous cette appellation « rêve d'un monde meilleur sans Dieu ». Est-ce que réellement, après la chute, l'homme pouvait réussir ? L'homme pouvait avoir du succès, triompher de toutes les forces hostiles auxquelles il était confronté, à commencer par la maladie, par la mort, son semblable, se livrant à toutes sortes de choses épouvantables. Alors, nous voyons que les choses nous sont présentées de cette manière, et ce tremblement de terre et de feu, eh bien, nous voyons que l'homme va essayer de traverser cette existence, le temps de sa vie, et il va tenter d'évoluer solidaire vers le progrès. Parce que quand je dis qu'il est solitaire vers le progrès, c'est qu'il y a eu un événement tout de suite après le déluge, ou quelque temps après le déluge, ou après la chute, l'effondrement de l'homme, c'est ce que l'on appelait la tour de Babel, où l'homme s'est dit, en se rassemblant dans les plaines de Shinéar, c'est-à-dire dans la région de Mésopotamie aujourd'hui, de dire, eh bien maintenant nous allons relever nos manches, voilà, unissons-nous et construisons une tour dont le sommet touche le ciel, et nous nous ferons un nom. Ça, c'était véritablement la manifestation de l'orgueil de l'homme. On n'a pas besoin de Dieu, on peut se débrouiller tout seul. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, vous savez, Babel hier, Babylone aujourd'hui, c'est l'image du monde, c'est l'image où l'homme se dit, eh bien, suffisamment capable pour penser, croire à la force de son bras et de son poignet, de dire, eh bien, on y arrivera quand même. On arrivera à vaincre la guerre, on arrivera à vaincre la mort, on trouvera bien des solutions d'une manière ou d'une autre. C'est l'illusion, je le disais tout à l'heure, d'un monde meilleur, mais d'un monde où Dieu est complètement évacué. On n'a pas besoin de lui. Alors il va marcher. Il va tâcher de faire des progrès. Et certes, il fera des progrès. Parce que quand on voit l'évolution de l'homme, sa technologie, dans bien des domaines, sa capacité d'intelligence qu'il détient quand même de celui qui l'a créé, parce que l'homme, c'est pas un animal, dans ses actes de barbarie, oui, c'est un animal, Mais il est capable de faire des prouesses. Avec son âme, il est capable de réaliser des belles choses. On ne peut pas dire le contraire. Alors à ce moment-là, il va tant d'aller vers le progrès. Et Dieu, malgré qu'il a rejeté son Créateur, Dieu va lui donner encore de l'aide. Il va revenir, il va se choisir des hommes de foi, il va se choisir des hommes qui pensent encore qu'il y a un Dieu dans le ciel. S'ils l'ont sorti de la terre, en tous les cas, alors Dieu va venir vers cet homme pour l'aider encore à trouver le bonheur malgré la catastrophe dont nous avons parlé il y a un instant. Alors il va lui donner des lois, ce que l'on appelle les 10 commandements, entre autres, en substance pour un peuple, Israël, qui va devenir à son tour eh bien, le modèle et l'exemple pour toutes les nations de la terre. Et d'ailleurs, en substance, les lois humaines n'ont jamais changé. Hein. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ceci et cela. Ça reste encore à la base de toutes les sociétés hein, d'aujourd'hui. Dans l'esprit. Alors, les lois morales, mais en vain. Parce qu'il y a un vrai problème. Et le problème, c'est bien de savoir, mais c'est de pouvoir mettre en pratique. C'est de pouvoir vivre ce que l'on sait. Mais il y a un obstacle, il y a une montagne, il y a des rochers à franchir, quelque chose qui est impénétrable, parce que nous voyons qu'à chaque fois qu'il s'efforce d'évoluer vers le progrès, d'une façon ou d'une autre, d'une manière constructive, alors il va s'égarer davantage. Parce que ce que Dieu lui a donné, les substances, en quelque sorte la pensée que Dieu lui donne pour aller dans le bon sens, il va le dénaturer, il va le déformer, il va le gâcher, le vicier en quelque sorte. Alors, il s'égare toujours de plus en plus, et à chaque fois, ses tentatives avortent, parce que ça finit toujours par un fiasco. Et on a vu des empires, on a vu des royaumes, on a vu des systèmes, on a vu des idéologies, on a vu des philosophies, on a vu tout cela passer, et à chaque fois, ça finit dans quelque chose, souvent qui est catastrophique. C'est l'histoire du monde, le temps passe, les siècles, et cela avorte. Parce que le problème reste entier, il n'a jamais été solutionné au départ. Dans l'effondrement de l'histoire de l'homme dont nous avons parlé avec l'image du vent, le problème reste entier. Et je vous le rappelais ce soir, le problème, il porte un nom que les gens n'aiment pas prononcer. Que dont les hommes se moquent, parce que ce n'est plus finalement à la mode. C'est le mot péché. L'homme ne peut pas admettre que finalement, son problème, il n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas tant dans le vent, il n'est pas tant dans le tremblement de terre ou dans le feu. Bien qu'il est capable de souffler le vent, cet homme fou, il est capable de faire trembler la terre, il est capable d'allumer le feu partout. Mais le problème, il n'est pas là, le problème, il est là. Il est au fond de son cœur, au plus profond de sa vie. Et ça, il ne veut pas l'admettre. Et les choses les plus évidentes, que ce soit le crime, le mensonge, la haine, et toutes ces choses qui sont dans la nature de l'homme, alors il va édulcorer le vocabulaire, il va dire « oui, mais ce sont des traits de caractère, ce sont des défauts, voilà, on va atténuer, vous comprenez ?» Et on trouvera toutes sortes de parades pour dire « oui, il y a ceci, mais attention, c'est pas tout à fait ça ». Etc., etc. Alors que l'apôtre Paul le déclare d'une manière tellement ferme dans l'épître aux Romains, il dira le salaire du péché, c'est quoi la sanction? La mort. Et devant la mort de tous les hommes, eh bien, ça devrait faire réfléchir les uns et les autres, de dire pourquoi nous mourons? Parce qu'il y a une cause à effet, naturellement. Alors c'est ça le péché. Et la mort s'est imposée. Oui. La mort s'est imposée. En voulant préserver la vie, on voit que l'homme aboutit toujours à cette impasse, mourir. Avec tout ce que cela peut avoir d'appréhension, le spectre de la mort est quelque chose d'effrayant. Pas pour un chrétien, parce que nous savons où nous avons des convictions et des certitudes. Mais pour le commun des mortels qui n'a que horizon la terre, sa réussite, son succès, l'argent ou autre chose, l'inconnu, les frais, et c'est un euphémisme, parce qu'il y a encore plus que ça. Et pourtant, quelqu'un se lèvera pour nous dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous connaissez Jean, chapitre 15, où Jésus dira « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous essayez de construire un monde? Vous essayez de refaire le monde? Vous essayez de rebâtir votre Babel idéal? le bonheur. Vous essayez tout simplement, eh bien, vous rêvez d'un monde qui serait sans ceci, sans cela, mais vous ne pouvez pas y arriver, parce que si vous le faites sans Dieu, ben, il n'y aura pas le reste, puisque je suis l'essence, je suis l'essentiel, je suis la racine, je suis le fondement, je suis la base de tout, je suis la vie. Alors c'est pas possible. C'est bien l'image et cette conquête de la tour de Babel. Alors les tours de Babel aujourd'hui, elles ne sont plus ce que nous pensons, hein, comme elles sont représentées dans ce beau tableau de Bruegel, peinture flamande, voilà. Mais les tours de Babel, elles vont beaucoup plus loin aujourd'hui. Alors on pourrait peut-être penser à nos gratte-ciels, mais ils sont si petits à côté de l'infiniment grand, parce qu'il y a encore de la place, hein, là-haut. Peut-être pensons-nous que la tour de Babel, les tours de Babel modernes aujourd'hui, c'est tous ces engins spatiaux là qui sont lancés dans l'immensité et qui tournent autour de nous, mais on a du mal à dépasser la galaxie du Soleil. Hein. Tour de Babel aussi, dont les hommes finalement s'enorgueillissent en disant « Mais nous sommes arrivés à faire des choses extraordinaires. » C'est vrai, je le reconnais, nous le reconnaissons. Ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Mais l'extraordinaire est encore beaucoup plus lointain. Il est immense, l'extraordinaire. Il est incompréhensible. On ne peut pas le saisir avec notre intelligence. Et puis, on s'aperçoit que, à la recherche de ce paradis perdu que l'homme veut faire sur Terre, mais sans Dieu, alors les empires tyranniques se sont succédés et ils s'effondrent tour à tour. Et l'homme cherche vainement à reconquérir la paix, qu'il avait perdue déjà à partir du chapitre 3 du livre de la Genèse. Chercher la paix, faire la paix. Vous êtes certainement au fait de l'actualité, là. On est bombardé d'informations et tout ça. Les hommes et les nations multiplient les rencontres au sommet pour faire la paix sur la terre. Et il n'y a jamais eu autant de bruit de guerre, de conflits, le feu est partout, les vents soufflent de tous les côtés, ça tremble, la terre est convulsée, le feu s'allume à tous les niveaux. Alors l'homme, je le répète, cherche désespérément à établir la paix pour construire un monde juste et fraternel. Et à chaque fois qu'il touche à ce problème, le mal augmente, parce qu'il y a des hommes qui sont comme Caïn. Leur état d'esprit, leur mentalité, leur cœur est rempli de haine, de ressentiment, d'aigreur, de jalousie, enfin, tout ce qui émane de l'enfer. Eh oui, parce qu'on a écouté le mensonge dans le jardin d'Éden. On était dans la vérité, on a renié la vérité pour aller vers le mensonge. Et qu'en est-il de notre temps? Parce que là, je vous parle de la tour de Babel, c'est vieux, hein? Et puis de tous ces empires qui se sont... Vous savez que, au sortir de la dernière guerre mondiale, en 1945, il y a eu une conférence au sommet, c'est de l'histoire, hein, c'est pas... entre les trois grands vainqueurs, hein, à Yalta. Et le président des États-Unis, Roosevelt, a prononcé ces mots qui sont encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Construisons une nouvelle tour de Babel qui s'appellera Nouvel ordre mondial. Vous avez entendu parler de ça, hein? Voilà. Et ça fait depuis 45, donc ça fait quand même quelques années, hein, quelques décennies. Il n'y a jamais eu autant de feu sur le monde. Construisons un nouvel ordre mondial, où là nous allons aller vers vraiment l'âge d'or. Vous savez, l'homme rêve à l'âge d'or. Et cet ordre mondial, il faut bien le reconnaître, ces mots, en tous les cas, avec le sens que cela peut avoir, eh bien là, est issu du feu des champs de bataille. On a dit à ce moment-là, dans la Première Guerre mondiale et dans la Seconde, jamais plus tout ça, c'est pas possible. Et pourtant, après la Première, il y a eu la Deuxième. Moi, je voudrais pas vous faire peur, mais il me semble que ça sent un peu le soufre. Oui, si vous me permettez, hein. Oui, ouais, vous savez, c'est quand même assez curieux parce que les hommes ne tiennent pas compte de l'histoire. Même si on multiplie, comme ça a été encore aujourd'hui, dans des inaugurations de stèles ou de musées, enseignant la nouvelle génération contre la xénophobie, le racisme, toutes ces choses qui, d'une manière ou d'une autre, déchirent finalement le monde. Alors c'est vrai que ce sont des beaux projets tout ça. Ce sont les rêves des bâtisseurs de Babel. Unissons-nous et que nous fassions un monde qui touche vers le ciel. Les hommes ont toujours cherché, par leur philosophie ou leur religion, à s'approcher du ciel. Mais Dieu n'aura jamais demandé de monter au ciel. Il aura dit d'attendre que lui descende vers les hommes. Ça, c'est l'histoire des siècles. Et quand on voit que nous avons parlé du feu, et que là aussi, au même moment où on prononçait « construisons-nous un monde, un royaume, un empire mondial, avec une religion unique, comme ça tout le monde sera content, syncrétisme », alors, c'est au même moment où on prenait de bonnes résolutions, qu'on a appuyé sur un bouton, et on a déclenché le feu nucléaire. On craint de devoir le faire. On a appelé une arme de dissuasion. Mais ça a pourtant été un holocauste, hein, le feu, par un souffle de vent qui a brisé les rochers, qui a ouvert les montagnes, qui a créé un tremblement de terre mondial. Si c'était pas peut-être simplement autour de ces deux villes japonaises, c'était dans le monde entier. C'est ce dont nous parlons. Et qui va certainement augurer la venue de celui qui va précéder le retour de Jésus-Christ, mais qui n'est pas sa ressemblance, qui est son opposé, que l'on appelle l'Antéchrist. Vous avez plein de textes dans la Bible. Même dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, prophète, ou dans l'Évangile, ou alors dans les Épîtres, ou encore mieux dans le livre de l'Apocalypse. Parce que le paradoxe, c'est celui que j'ai souligné, c'est que dans le livre du prophète Ésaïe, parce que les hommes veulent véritablement construire un monde nouveau, mais écoutez, dans Ésaïe chapitre 1er, je cite simplement comme cela, et vous savez que les mots que je vais citer, pour montrer finalement la dégradation de l'humanité. En pensant aller vers le bonheur et vers l'âge d'or, l'humanité va se dégrader de plus en plus, et ça c'est le verdict qui nous est donné de la part de Dieu, transmis par la bouche du prophète Ésaïe, quand il est dit ceci, Dieu parle, « J'ai nourri et élevé des enfants, créatures, mais ils se sont révoltés contre moi. » Et un peu plus loin, il est dit, ils m'ont abandonné. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Et ils se sont retirés en arrière. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant, de la pointe, de la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. C'est quelque chose de terrible, hein. Ça, c'est le diagnostic du Créateur qui est Dieu quand il voit l'humanité. L'homme a tout fait pour essayer d'améliorer sa condition. Il est parvenu dans un certain sens son confort et certaines choses. Mais on s'aperçoit que le monde est malade, de la tête jusqu'aux pieds. On ne peut pas dire qu'on est en bonne santé en ce moment. Enfin, pas pour vous personnellement, mais je veux dire que quand on voit socialement l'économie, la politique, c'est étourdissant tout cela. De voir les familles sont malades, les couples sont malades, les enfants sont malades, les conséquences de tout cela. Le monde, la jeunesse est malade, tout est malade. Alors excusez-moi, je ne veux pas être prophète de malheur, mais enfin bon, je crois que quand même, arrêtons d'idéaliser. Parce que, comme dit Jésus, sans moi vous ne pouvez rien faire, c'est clair. Après le vent, ce fut un tremblement de terre, après un feu, et l'Éternel n'était pas, ni dans l'un, ni dans l'autre, et encore moins dans le troisième. Et puis, vous avez surpris cette petite phrase, vous avez saisi cette petite phrase, il nous est dit, après le feu, un murmure doux et léger. Alors, peut-être pour le lecteur non averti de la Bible, il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va tenter une explication, elle est facilement compréhensible parce qu'elle est référencée par d'autres textes, et particulièrement dans le Nouveau Testament. Il y a un contraste saisissant entre ce tohu-bohu, ce bouleversement de la terre depuis toujours, et puis ce murmure. Un murmure, vous savez ce que ça veut dire, hein ? C'est quelque chose de doux. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la violence. C'est quelque chose de prévenant. C'est un avertissement, mais qui va être entendu afin que ça ne trouble pas. Que ça ne trouble pas dans le sens qu'il y aura un trouble nécessaire, mais un trouble salutaire et non pas un trouble destructeur. Vous savez que c'est ce murmure doux et léger, la Bible appelle l'évangile du salut, l'évangile de la rédemption, l'évangile. Ce murmure, c'est un signe quand Dieu parle. Vous avez remarqué que quand Dieu appelle un homme, quelle qu'ait été sa vie, il ne le prend pas par les épaules, le secoue en disant « Tu vas m'écouter, je vais te sauver de force. Je te mets à l'envers, la tête en bas et les pieds en l'air, et tu vas voir que tu vas croire en moi. » C'est pas la méthode de Dieu. Ça, c'est la méthode des hommes. On se souvient des grandes conquêtes chrétiennes à travers des gens comme Charlemagne qui disait « Si vous convertissez pas, on vous coupe la tête. » Vous pensez que tout le monde se convertissait. Hein. C'était des conversions volontaires. Hein. De cœur. Ça, c'est la manière des hommes. C'est ce qu'on a parlé de ce monde sanglant, épouvantable. On en a parlé. Donc, c'est l'évangile de la rédemption où le nouvel arc-en-ciel augure une alliance nouvelle au prix d'une souffrance mortelle d'un homme Dieu, ou plutôt de Dieu qui s'est fait homme. Renversement de situation. Complètement changé cette affaire. Dieu ne parle pas comme les hommes, et heureusement, c'est pour ça que toutes les religions se sont complètement fourvoyées, sont allées dans le mur. Parce que les religions sont souvent des tyrannies, elles sont souvent des dictatures, elles sont souvent des obligations impératives, faisant croire et faisant peur aux hommes. Mais le souffle doux et léger, le murmure doux et léger, c'est tout à fait autre chose. Dieu appelle, et l'homme reste libre de dire oui ou de dire non. C'est un murmure doux et léger. C'est tout à fait différent. Et ce murmure doux et léger, cet évangile, a un but afin que le mal qui déchire les cœurs et qui brise les vies soit vaincu. C'est pas par l'épée, c'est pas par la guerre, c'est pas par le feu, c'est pas par les tremblements de terre, c'est pas par le souffle impossible d'un vent impétueux, mais c'est précisément son contraire. Et nous apercevons que quand on lit en diagonale la Bible, d'Adam le sanglant, on pourrait dire ça comme ça, au Christ sauvant, il s'en est fait des choses, parce que les montagnes et les rochers, la terre qui s'en trouve pour engloutir dans la mort et le feu qui consume, va disparaître avec ce souffle, ce murmure doux et léger, va disparaître. Finalement, par ce nouveau plan de Dieu. Ouais. Dieu a créé un nouveau plan, qui n'est plus celui de les temps primitifs, les temps anciens, qui n'est plus celui de la loi impératif qui avait été donnée à Israël, ceci, cela, etc., etc., avec des observances et des obligations et des commandements. Mais là, l'homme peut choisir comme il veut. Il suffit d'avoir l'amour de la vérité. Alors Dieu va nous remplir de l'esprit de vérité pour comprendre ce qu'il a à dire. Et là, à ce moment-là, il va nous montrer à travers ce souffle, ce murmure doux et léger, que c'est Dieu qui nous parle. Dieu ne fait pas de bruit quand il parle. Il ne fracasse pas. Il ne trouble pas. Il est venu simplement nous donner un message qui est un message d'amour. Et Dieu nous dit en substance, je t'aime pour te sauver. Je t'aime pour que tu deviennes une nouvelle créature. Je t'aime pour que tu guérisses de tes blessures guerrières, de ta haine, de tes péchés, du mal qui est en toi. Je suis venu pour t'apporter la solution. Alors, on va disparaître devant le murmure doux et léger. Eh bien, toutes ces choses qui sont dans le cœur des hommes, ce sentiment terrible de destruction, parce que c'est un murmure apaisant qui enfin va réconcilier le ciel et la terre. Ouais. Causé par la première rupture dans le jardin d'Éden. Mais l'homme à ce moment-là revient vers son Dieu, et Dieu revient vers l'homme. Et il y a un trait d'union qui s'appelle Jésus-Christ. Et dans la parole qui nous est donnée par Jésus-Christ, eh bien c'est une parole formidable et extraordinaire, parce que dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, vous savez ce qu'il nous est dit? C'est beau, hein? Dieu dit, voici j'enverrai mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit en lui, et il annoncera la justice aux nations. Écoutez bien le murmure, il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'étendra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce que j'ai triomphé la justice, et les nations espéreront en lui. Souffle, murmure doux et léger, c'est ça l'évangile. C'est la bonne nouvelle que Dieu nous a donnée. Et en conclusion, c'est cette parole qui nous est donnée par le prophète Ésaïe, au chapitre 2, je cite. Et je le cite d'autant plus parce que si vous allez à New York, si vous avez l'occasion d'aller à New York, vous irez devant l'immeuble des Nations Unies. Oh, combien un tour de Babel moderne qui n'arrive à rien, parce que si elle avait le pouvoir, il n'y aurait pas la guerre comme il y a aujourd'hui. Il n'y aurait pas des enfants qui se font égorger dans certains pays. C'est pour bien montrer l'impuissance des nations à amener la paix sur la terre, à amener les hommes à la raison, à les amener non pas à s'aimer les uns les autres, parce que ça c'est quand même difficile, mais au moins à s'estimer, à se respecter les uns les autres, pour ne pas faire couler le sang. Et il y a une plaque devant l'immeuble colossal des Nations Unies à New York, et cette plaque, eh bien c'est ce que nous lisons maintenant, parce que c'est un texte du prophète Ésaïe. Mais ça sera pas le vent, ça sera pas les tremblements de terre, ça sera pas le feu qui l'amènera, et simplement, il nous est dit au chapitre 2 et au verset 4 et 5. Alors, cette parole. Dieu sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera point d'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Cette parole-là, celle-ci que je viens de vous citer est inscrite sur du marbre devant les Nations Unies prétendant apporter un monde nouveau, un ordre mondial nouveau, mais ne pouvant pas y parvenir. Et c'est pourtant une parole biblique. Ils n'apprendront plus la guerre dans le vent, dans les tremblements de terre et dans le feu. Il n'en est rien. Vous savez pourquoi? Comme à Babel, les hommes ont dit, on ne veut pas de Dieu. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et la suite, maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Il faut nécessairement un retour de l'homme vers son Dieu et son Créateur, qu'il se repente, qu'il naisse de nouveau, et qu'il accepte Jésus comme son sauveur personnel. Autrement, il n'y a pas de salut. C'est ça le souffle. C'est ça le murmure doux et léger. Et c'est terrible de voir cet aveuglement. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais vous tous qui êtes fatigués de la guerre, du sang, des cris, des larmes, des canons, de toutes ces choses abominables, de cette toxicité mentale, morale, eh bien venez à moi et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prenez sur vous mon joug parce qu'il est doux et léger. Recevez mes instructions, ma parole. Alors, vous entendrez ce murmure doux et léger, et vous le comprendrez. Je termine au verset 11, je reprends le verset 11. L'Éternel dit à Élie, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Moi, je crois que le Seigneur passe. À chaque fois qu'un homme prêche l'évangile, qu'un prédicateur, quel qu'il soit, évangéliste ou pasteur, peu importe, que vous-même vous rendrez témoignage, moi je dis que Dieu passe dans un souffle doux et léger pour annoncer aux hommes qu'il y a quelque chose de mieux que la mort et de mourir dans son péché, qu'il y a le salut en Jésus-Christ. Alors, quand Élie entendit, verset 13, je finis, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Je retiens simplement ce mot. Dieu nous demande de sortir. Ouais. De sortir de nos illusions. De sortir de ce monde sans être finalement des ermites. Hein. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal qui est dans le monde. Et ça, on n'y arrivera jamais tout seul. Il faut que nous ayons pour compagnon et pour guide Jésus-Christ, parce qu'il est le chemin, parce qu'il est la vérité et il est la vie, et que nul ne vient au Père que par lui, tout simplement. Alors, lui qui était enfoncé dans cette caverne, dans sa prison ténébreuse, alors il a pu sortir et il s'est tenu à l'entrée. Moi, je pense que le Seigneur nous a donné une porte. Alors, rentrons par cette porte. Et cette porte, comme le dit Jésus, en s'illustrant par une image, dans la belle parabole du bon berger, Jean chapitre 10, Jésus dira, « Je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. » Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants, et puis ensuite, eh bien, nous terminerons notre rendez-vous ce soir. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que quelle histoire que celle de l'humanité, d'une humanité qui a tourné le dos à son Créateur. Mais nous savons, Seigneur, que malgré tout le fracas, Seigneur, de ce monde, malgré les bruits de guerre, la guerre elle-même, malgré, Seigneur, cette terre qui a tremblé sous le sang des hommes dans toutes sortes de conflits, dans toutes sortes de batailles, quand bien même le monde a été enflammé, Seigneur, dans le domaine de la politique, dans le domaine de la cupidité, de l'avidité, dans le domaine des idées, Seigneur, eh bien nous croyons, Père éternel, que tu es venu, non pas, Seigneur, te présentant comme les hommes t'attendaient, dans la gloire, dans la puissance, dans le pouvoir qui écrase et qui piétine, mais tu es venu, Seigneur, à travers la personne de Jésus, lui qui ne paraissait pas, homme simple parmi les hommes, qui, en effet, s'est identifié à notre humanité et qui a donné, Seigneur, au summum de sa mission, eh bien sa vie, pour que les hommes ne meurent plus éternellement. Seigneur, tu nous bénis ce soir, fais-nous du bien, que ta parole maintenant nous amène à la réflexion, et plus qu'à la réflexion, à une décision de qui nous voulons suivre. Et nous te remercions et nous te louons dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Merci, sauve encore des hommes qui sont encore capables d'entendre ta voix et de percevoir, même si les choses sont très discrètes, eh bien, Seigneur, le murmure doux et léger qui nous appelle à venir à toi et à te donner complètement et totalement notre vie présente dans la perspective de ce salut éternel que tu nous as préparé. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.